Je le sens. Un, deux mois. Alors, je m'appelle Patrick. J'habite entre Yverdon et puis ces dernières semaines, Genève. Donc, je fais des allers-retours entre Yverdon et Genève. Donc, je suis plutôt issu du Nord-Vaudois. Je connais Johan parce que... Ah, mais c'est gentil. Merci. Merci. C'est gentil. Je connais bien Johan, donc voilà, je connais aussi bien le groupe de jeunes, je connais bien aussi les plus anciens des jeunes de l'Église. Je suis aussi bibliothécaire et responsable de la communication à Startup, pour ceux qui connaissent anciennement Ibeto. Il y a Rolf qui est dans le comité, qui est aussi là ce matin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers lui. Sinon, j'étais plusieurs années dans le pastoral, là c'est un peu une période de transition, donc... voir où Dieu ouvre les bonnes portes. Et puis, sinon, j'aime bien la lecture. Donc, je suis un féru de lecture et de théologie en particulier. Donc, en général, c'est un peu repoussant. Mais non, c'est toujours impressionnant et défiant de voir à quel point Dieu nous dépasse et à quel point Dieu est au-dessus de nos pensées. Et le but de ce matin, c'est d'une certaine manière de vous interpeller, mais aussi de vous encourager. Et je vais vous parler d'un prophète. Alors, je ne vais pas vous faire la blague de savoir quel est le plus vieux prophète de la Bible. C'est le prophète âgé, voilà. Je vais vous parler d'un petit prophète et qui est, je trouve, fascinant. Parce que souvent, dans la Bible, on a les grands prophètes. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, ces grands prophètes. On peut encore rajouter Daniel. Et puis après, on a les petits prophètes. On ne sait pas trop quoi faire avec... On a des prophètes, pardon. On ne sait pas trop quoi faire avec. Agée, Sophonie, puis après tous les autres qu'on a déjà oubliés, puis après on ne sait plus quand ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, puis après il y a plein de malédictions sur Babylone, sur Edom, sur Ninive, puis on se dit, bon, c'est sympa, mais de toute façon, Ninive, elle a disparu depuis plus de 2000 ans, donc est-ce que ça vaut encore la peine de lire le prophète Nahum? Puis enfin, il y a des petits prophètes, on ne sait pas trop quoi faire avec, puis on les appelle les petits prophètes. Après, on a dit, il y a les 12 petits prophètes. Enfin, en général, même dans les commentaires, il y a des commentaires dédiés à Ésaïe et à tous les grands prophètes. Puis après, il y a des ouvrages génériques sur les petits prophètes, puis il y a quelques pages. Et c'est vrai que même dans l'Église, on parle peu des petits prophètes. Et je pense que ça serait bien de réhabiliter les petits prophètes. Voilà, c'était les deux minutes de présentation. Le titre de ce message, c'est « Prends courage et ne crains pas ». Car le meilleur est à venir. J'ai pris exprès un titre positif. Je dis, le meilleur est à venir, prends courage, ne crains pas, ça va un peu comme Josué, au tout début du livre de Josué, où Dieu lui dit qu'il est avec lui. Mais c'est vrai, le prophète âgé est petit, 2 chapitres, et pourtant, c'est un grand prophète. Ah, elle est là, je la cherchais la petite... C'est un petit prophète, mais qui a un grand impact. En 2 chapitres, Jérémie va être plus efficace, non pas plus efficace, mais en tout cas tout autant efficace qu'un Ésaïe avec plus de 60 chapitres. Ésaïe va interpeller le peuple, va secouer le peuple, puis d'une certaine manière, il y a une forme de léthargie. Et Agée, en 2 chapitres, va réussir à remettre le peuple sur le droit chemin. On va prendre un petit peu le contexte historique, parce que je vous l'accorde, c'est vrai, âgé, on ne sait pas trop qui c'est, où il a vécu, ce qu'il a fait. Je vous prends un peu à froid. Donc, comme ça, vous pourrez relire cet après-midi au calme les 2 chapitres de âgé. Mais, en gros, on a l'édit de Cyrus. Donc, si on prend là, en 538, il y a ce fameux édit de Cyrus, où, si vous relisez Esdras, Néhémie, retournent à Jérusalem, ils ont les lettres, ils ont les matériaux, etc. Et ils recommencent à reconstruire le temple. Puis après, tout d'un coup, il y a la fin des travaux. Et puis, tout d'un coup, Agé, il intervient là, donc en 520. Et puis, il y a la reprise des travaux. Et puis, à la fin, le temple est reconstruit en 516. Pourquoi ce tableau est intéressant? Parce qu'on voit, ils sont revenus de Babylone. Ils sont revenus de captivité. Ils ont eu les autorisations nécessaires, les matériaux nécessaires. Ils ont commencé à reconstruire. Ça, on le voit dans Esdras, Néhémie. Je vous encourage aussi à relire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis. Et puis, tout d'un coup, Au bout de 3 ans, ils se sont arrêtés. Les travaux ont duré à peu près 3 ans et le peuple était découragé. Puis ils ont arrêté. Imaginez un chantier, je ne vais pas prendre la gare de Lausanne ou d'autres travaux, je ne vais pas faire de politique, mais ça commence, il y a tout qui est là, et puis tout d'un coup, voilà, comme ça, petite blague gratuite, mais, et puis tout d'un coup, ah mince, et puis tout d'un coup, ben, le peuple il est à l'arrêt, et puis ils disent, ben, tiens, pourquoi rebâtir la maison du Seigneur alors qu'on pourrait construire notre propre maison ? Et c'est vrai. Notre propre confort. Puis tout d'un coup, ils ont mis un peu le temple de côté. Et c'est là où Agée intervient en 520. Et on verra plus tard comment il intervient. Et on voit qu'en à peu près 4 ans, le temple est reconstruit. Pendant plusieurs années, plus de 10 ans, le temple est à l'arrêt. Et tout d'un coup, hop, en quelques années, le temple est reconstruit. En tout cas, le temple est finalisé. Et je trouve réjouissant. On voit que le prophète Agée ont 4 prophéties, on le verra juste après. Donc là, si vous voulez voir, dans Esdras, on le voit. On parle très rapidement Agée, Zorobabel, etc. Le prophète Agée, c'est résumé en 1 verset, mais Agée, ben, on a le livre d'Agée. Donc on voit qu'il fait partie quand même de Esdras. Il est mentionné par Esdras, mais de manière assez sommaire. Et là, on voit Agée, c'est 4 prophéties en 4 mois. 4 prophéties, 4 mois. Donc c'est un ministère prophétique qui est intense. Souvent, on voit des ministères prophétiques sur 20, 30 ans, on dirait que c'est des prophètes de carrière, et puis ils sont comme Esaïe, Ézéchiel, pendant toute leur vie prophète. Et là, c'est un ministère qui dure pendant 4 mois. La première prophétie, c'est le 29 août. La deuxième prophétie, qui est celle qu'on va un peu plus aborder ce matin, c'est en octobre. Et tout d'un coup, on a 2 prophéties le même jour. Donc, en gros, le livre d'Agée se résume en 3 oracles. C'est très peu. Imaginez, là maintenant on est en octobre, fin octobre. Je commence mon ministère en août et le 18 septembre, je prends ma retraite. Décembre, pardon, et je prends ma retraite. Et le ministère d'Agée s'est arrêté là. Et les 2 chapitres sont de notre Bible plus de 2000 ans plus tard, parce que c'est toujours d'actualité. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine de dire, mais à quel point quand Dieu peut utiliser quelqu'un de manière courte et intense, parce que c'était la personne pour le moment clé. C'est pas le but du message, mais des fois, dans notre propre vie aussi, on peut faire une différence avec une parole. Un moment de notre vie où tout d'un coup, on est sous les projecteurs. Bon, c'est pas ce que Agée a fait avant, c'est pas ce que Agée a fait après. Mais c'était le ton de Dieu qui donne ces 3, 4 prophéties en 3 fois. On va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Et là, Agée pose un diagnostic, il pose la problématique. Tout début, Agée 1-4, les premiers versets, c'est les présentations, salutations, un peu les formes de politesse, et bam, Agée, il tape directement dans le vif. « Est-il le temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ?» Et là, il interpelle le peuple. Là, il confronte le peuple. Il dit « Hé, les gars !» Est-ce que c'est le bon moment d'avoir des belles maisons alors que le temple de l'Éternel est en ruine ? Il n'attaque pas directement le fait d'avoir des belles maisons. Il dit juste, vous avez des belles maisons. Mais là, le temple, c'est un tas de ruines. Il y a des fissures partout. Là. Il faudrait un petit peu faire quelque chose. Et là, il interpelle le peuple. Il confronte le peuple sur son confort. Et moi, ça m'interpelle aussi dans ma propre vie. Ce sera le but du message. Comme ça, je vous spoil déjà la prédication. Mais où est-ce que je mets les priorités dans ma vie ? Et on abordera un peu plus en détail cette question-là. Mais pensez déjà à votre propre vie. Où est-ce que je mets les priorités ? Qu'est-ce qui anime mon cœur ? Est-ce que c'est ma maison, au sens allégorique du terme, ou est-ce que c'est la maison de Dieu ? Est-ce que c'est la vie spirituelle ? Et on a cette promesse. Il est question de gloire. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en celui-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Je ne vais pas développer la thématique de l'or et de l'argent. Mais c'est intéressant, actuellement, le cours de l'or augmente, le cours de l'argent augmente aussi. Les gens disent « Ah, mais il faut acheter de l'or, de l'argent, l'euro, le dollar, tout ce qu'à cela figure. » Mais l'argent et l'or, ça, c'est des vraies valeurs. Je suis pas là pour faire de la finance, mais c'est intéressant. Dieu rappelle que l'or et l'argent m'appartiennent. Autrement dit, tout lui appartient, toutes les richesses lui appartiennent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monnaie papier. Mais tout appartient à Dieu. Et il rappelle aussi, je pense, au peuple, un peu, hey, les gars, tout m'appartient. Vos maisons, l'argent que vous avez utilisé pour vos maisons, ultimement, m'appartient aussi. J'ai un droit de regard dessus. L'or et l'argent m'appartiennent. À l'époque, on payait en or, en argent, avec d'autres matériaux précieux. Mais Dieu rappelle que tout lui appartient. Et il parle de cette maison, du temple. Il est trois fois fait mention de gloire. Ce qui caractérisait le temple de Salomon, c'était la gloire. La gloire est descendue. Le Dieu demeurait dans le temple, dans l'arche de l'Alliance. Il y avait le propitiatoire, il y avait la gloire de Dieu. Et une fois par année, le grand prêtre venait, je ne veux pas vous faire un cours dans l'Ancien Testament, mais d'une certaine manière, c'était la gloire qui caractérisait le temple. C'était, oui, il y avait de l'or, de l'argent, il y avait de l'encens, il y avait tout le mobilier. Mais le cœur même du temple, c'était la gloire. C'était la présence de Dieu parmi les hommes. Et cette gloire était partie. Si vous relisez Ézéchiel, la gloire de Dieu est partie. Et le peuple, d'une certaine manière, est découragé. Parce que la gloire était partie. Il n'y avait plus la présence de Dieu au milieu d'eux. Et là, on peut se poser la question, mais alors de quelle gloire il est fait allusion? Parce que le deuxième temple était moins glorieux que le temple de Salomon. Si vous relisez les livres des rois, on voit le temple de Salomon, il y avait de l'or, de l'argent, les ustensiles, tout était noble, il y avait la gloire de Dieu, l'arche de l'Alliance. Et dans ce deuxième temple, l'arche de l'Alliance n'était plus là. L'arche de l'Alliance avait été volée, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Et elle est partie. Certains disent qu'elle est à Babylone, d'autres qu'elle est à Rome, d'autres qu'elle est à Jérusalem, d'autres qu'elle est détruite, on ne sait pas. Mais dans ce deuxième temple, l'arche de l'Alliance n'était plus là. Et s'il n'y a pas l'arche de l'Alliance, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de la gloire de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. Et d'une certaine manière, c'était, on va dire, un temple vide. Et je pense que les anciens d'Israël, qui avaient connu le premier temple, disaient, mais ce deuxième temple, c'est juste une pâle copie. Ce deuxième temple, on a beau le rebâtir, on a beau faire tous nos efforts, il ne sera jamais aussi beau que le premier. Il ne sera jamais aussi bien que le premier. À quoi bon le reconstruire? Ne perdons pas notre temps à reconstruire un temple, entre guillemets, inutile. Autant bâtir des belles maisons. D'une certaine manière, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Au moins, on a une belle maison, et ce temple du Seigneur, d'une certaine manière, on ne sait plus trop quoi faire avec. Et il y avait ce désespoir, ce découragement. Ce peuple qui était, je veux dire, des pionniers, des vaillants héros qui sont partis de Babylone, qui sont revenus à Jérusalem. Si vous relisez Ezra Néhémie, le début de la reconstruction du temple, ce n'est pas fait de manière facile. Il y a eu beaucoup d'opposition. Donc les gens qui ont commencé à rebâtir le temple, ce n'étaient pas des fainéants. C'était des visionnaires, des gens qui étaient animés de l'Esprit de Dieu, qui ont relevé des défis. Tout d'un coup, ce même peuple a été découragé. Ils ont mis leur énergie ailleurs. Et là, moi, ça m'interpelle aussi. Deuxième, tiens, quel temple, quelle gloire. On a vu, si on revient en arrière, il y a quand même trois fois la gloire. Donc, ce n'est pas juste un petit mot en passant, donc, il y a la gloire. C'est quand même central. Et les questions d'une gloire. Et beaucoup de commentateurs, là, je vais vous spoiler un petit peu, disent qu'en fait, ce temple, ultimement, cette gloire qui viendrait, c'est plus simplement une arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance, d'une certaine manière, elle n'avait plus sa raison d'être. Parce que Dieu, Jésus, est venu. Et la présence de Dieu à travers Jésus, elle était matériellement sur terre. Jésus incarnait la présence de Dieu. C'est là où, pour moi, il y a un changement de paradigme. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était à un seul lieu. Quand Jésus est venu sur terre, Dieu s'est fait homme. Et Dieu a habité parmi parmi les hommes. Et Jésus est l'accomplissement absolu de cette prophétie. Et Jésus lui-même le dit, « Démolissez ce temple, répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Jésus est ultimement ce temple, cette gloire de Dieu qui s'est manifestée. Mais d'une certaine manière, nous sommes aussi un temple spirituel. Parce que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et ce qui m'est impressionnant, c'est de dire que dans l'Ancien Testament, Dieu était à un seul endroit. Et maintenant, Dieu est partout, il y a des chrétiens, parce que Dieu habite par le Saint-Esprit en nous. Et d'une certaine manière, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul le rappelle très bien dans 1 Corinthiens 6:9. Ou bien alors, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas, pas à vous-même. Pierre lui-même le dit aussi, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous. Et d'une certaine manière, nous sommes le temple de Dieu sur cette terre. Et là, j'en viens, vous avez compris où j'en viens. Qu'en est-il de notre vie spirituelle, si on veut, de notre temple intérieur? Est-ce que nous sommes aussi peut-être découragés? Si on devait faire un petit sondage, un petit diagnostic, comme si vous voulez vendre une maison, puis il y a le CA qui vient, ou d'autres personnes qui viennent, puis il faut une estimation. Si on devait faire une estimation de notre propre vie, puis on regarde l'état des murs, l'état du toit, l'état de l'isolation, des normes, est-ce que notre vie spirituelle est délabrée, en bon état? Quand est-ce que la dernière fois qu'on a fait venir le Saint-Esprit pour faire un petit nettoyage de chaudière, un petit peu ramener, parce que changer 2-3 choses. Moi, je me pose la question dans ma propre vie. Je dis, mais Seigneur, mais est-ce que je néglige ma vie spirituelle? Est-ce que le travail, avoir un bon salaire, grandir dans des responsabilités de l'Église, de la hiérarchie, avoir une belle maison, une belle voiture, tout ce que vous voulez, un petit chalet dans les Alpes, c'est toujours sympa l'été quand il fait trop chaud, partir en vacances, etc. Puis toutes ces choses qui ont de l'importance pour nous, et d'une certaine manière, la vie spirituelle, on la néglige. Donc on lit moins la Bible, on prie moins, on va moins souvent à l'Église, puis tout d'un coup, notre vie spirituelle se fissure, se craquelle. Et jusqu'où on se laisse aussi interpeller par Dieu, qui dit, mais bien, Patrick, qu'en est-il de ta vie spirituelle? Puis peut-être aussi du découragement. C'était mieux avant. Le peuple était nostalgique. C'était mieux avant. C'était mieux avant. L'âge d'or est révolu. Ça ne sera jamais aussi bien qu'avant. Et ça nous empêche de vivre l'instant présent, de pouvoir se projeter. Ah, quand j'étais au groupe de jeunes, ah, on se voyait, on avait la cellule de prière, on évangélisait, on faisait ci, on faisait ça, on faisait. Puis maintenant, j'ai d'autres choses à faire, plus importantes, d'autres priorités. Mais c'était le bon vieux temps. Puis on s'est éloigné de Dieu, puis une nostalgie. Peut-être de l'amertume, le découragement. On se regarde dans le miroir, puis on se dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'en est-il de tous ces projets que j'avais quand j'étais plus jeune, de toutes les choses que je voulais faire? Puis de quoi on fait le bilan de notre propre vie? On peut être dans cette situation-là. Le peuple était dans cette situation-là. Je ne l'ai pas mis ce matin, mais si vous relisez, les anciens du peuple disaient, mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon le reconstruire? De toute façon, ça ne sera jamais aussi bien qu'avant. Et le peuple n'a pas reconstruit le temple. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas le faire, mais pourtant ils ne l'ont jamais fait, parce qu'ils avaient d'autres priorités. Ou peut-être qu'ils disaient, mais ce n'est pas le bon moment, dans une année, 2 ans, 3 ans, ça sera un meilleur moment. Et puis on repousse, pour enfin, quand on ne le fait jamais. Si vous relisez Agé, le peuple n'était pas de mauvaise volonté, ce n'était pas un peuple rebelle contre Dieu, qui ne voulait pas reconstruire le temple, c'est juste qu'ils avaient autre chose à faire. Ils avaient leur maison, leur confort. Les choses spirituelles étaient mises de côté. Et pour moi, une des clés, c'est cette relation avec Jésus, demeurer en Jésus. Jésus dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il y a cette union, j'allais dire, organique, cette union vivante avec Christ. Et on prend du temps avec Dieu, on nourrit cette relation comme dans ce texte de Jean 15, où on est greffé à Jésus, et Jésus vit en nous, nous on vit en Jésus, on porte du fruit, notre fruit demeure. Il y a cette relation qui grandit, qui se développe. Mais si on n'alimente pas cette relation, comme un arbre, comme une plante, si on ne met pas de lumière, pas d'eau, elle dépérit. Dans notre propre vie aussi, on peut vite être découragé. Mais il y a cette espérance, c'est que Dieu est avec nous. Dans ce texte d'Agé, ce matin, je n'ai pas eu le temps de mettre, parce qu'il faut aussi choisir, mais il lui dit aussi, je suis avec vous. Il est compagnon d'œuvre de notre propre vie. C'est Dieu qui veut aussi produire en nous ce vouloir et ce faire. On le voit dans ce texte aussi de Romains 12. C'est un processus d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint qui plaise à Dieu. Ce sera là un culte raisonnable. Le temple, le culte, c'est un état d'esprit de ne pas se conformer au monde. Ne pas se conformer au monde, c'est aussi ne pas se conformer aux valeurs du monde, aux priorités du monde. Et de revenir à Jésus. Peut-être que vous êtes découragé, parce que ces dernières années, vous avez eu des hauts, des bas dans votre vie chrétienne. Et les choses de la vie ont fait que vous êtes éloigné de Dieu. Et que tout d'un coup, on a perdu l'envie de prendre du temps avec Dieu. La maladie, la mort, des décès, des prières qui ne sont pas exaucées. Et d'une certaine manière, on s'éloigne de Dieu. Et pour moi, il y a cet appel de revenir à Jésus, de reprendre route, de reprendre le départ. Et il y a cette promesse et aussi cette gloire déjà terrestre que nous prenons du temps avec Dieu. L'Esprit en nous produit aussi une gloire. C'est Paul qui le dit déjà dans 2 Corinthiens 3,18. Et nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce matin, pour nous louer la louange, on a contemplé. C'est bien. Après les autres jours de la semaine aussi, de continuer cette relation, que cette gloire de Dieu, que nous puissions voir la gloire de Dieu, être animés par cette gloire de Dieu, qui vienne aussi nous remettre en route, qui vienne nous redonner l'espérance, le courage de garder espoir, de se dire que Dieu est avec nous. Et ultimement, il y a cette gloire éternelle. Paul en parle aussi dans le chapitre après, dans 2 Corinthiens 4,17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et ultimement, quand nous serons au ciel, nous serons dans la gloire. Et cette gloire sera parfaite, parfaitement manifestée. Toutes les choses de la terre seront derrière. Et pour moi, c'est aussi une espérance que il y a peut-être des choses sur cette vie terrestre qui vont rester en suspens, mais un jour, tout sera derrière. J'arrive à la conclusion. On voit ce prophète âgé, il y a plus de 2000 ans, qui interpelle ses contemporains, c'est une réalité physique, le temple de Dieu, tout le monde pouvait le voir. Il était là, il était physiquement là. Il était en ruine, on le voyait. Et qu'en est-il aujourd'hui dans notre propre vie? On ne voit pas notre gloire intérieure, mais peut-être que j'ai dit, ah ben tiens, Patrick, là, maintenant j'ai 38 ans, ben purée, quand j'avais 35 ans, c'était mieux. Puis, ah ouais, là, d'un coup, je suis un peu sur le déclin. Je lis moins la Bible, d'un coup, le feu a diminué. Alors, il y a encore les braises, donc le feu n'est pas éteint. Il faudrait remettre un peu de bois, parce qu'à un moment donné, les braises vont s'éteindre. Des habitudes, des changements. Là, tous ces derniers mois, j'ai eu pas mal de changements professionnels, mais aussi personnels. Tu changes de rythme, tu n'as plus tes habitudes le matin, le soir. Tu n'as plus un appartement, tu es dans une chambre, un studio, puis tu passes du point A au point B, puis d'un coup, tu casses tes routines. Puis tu prends moins de temps à lire la Bible, puis d'un coup, tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Alors, je n'ai pas Netflix, mais ça peut être Netflix ou autre chose. Puis tout d'un coup, il y a d'autres routines qui viennent. On n'a pas choisi le peuple n'a pas choisi de renoncer à Dieu, mais d'une certaine manière, d'un coup, ils avaient plus le temps, ils n'y pensaient plus. Et là, c'est là où le prophète est venu. Quelles sont mes priorités? Quel premier pas je pourrais faire? Quel acte de foi est-ce que je pourrais faire? J'aime bien ces trois questions, parce que j'ai un sourire, parce que il y a quelques semaines, peut-être deux semaines, trois semaines, sur Instagram, je scrollais et puis je vois une publicité pour un coach sportif qui habite à Lassara, donc pas très loin d'ici, Éclépont. Puis qui dit, vous avez entre 30 et 35 ans, vous avez un peu de ventre, vous voulez perdre du ventre, un mois offert de coaching. Puis je dis, bon, allez, je m'inscris. Puis voilà, c'est le, parce que je pense qu'Instagram a vu que j'avais, voilà, bref. Et vive l'intelligence artificielle. Et mais d'un coup, là, et puis après, le coach, il m'écrit. Salut Patrick, sympa de autre. Si tu as des questions, écris-moi. Puis après, il m'écrit une petite question. Alors, tu as fait quoi cette semaine? Puis je dis là, ah mince, j'ai fait quoi cette semaine? Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'il soit content? Après, je lui dis, ben, je suis allé courir 20 minutes. Puis, ah, génial. Après, j'ai recherché mon vieux vélo. Puis, je suis allé faire un tour en vélo. Puis, ah, cool, génial. Je me suis remis un peu en route. Puis, j'ai regardé, mais Patrick, t'es comme une grosse M. Attends. T'es content d'être allé courir 20 minutes. T'es content d'avoir repris ton vélo, puis aller faire un tour en vélo. Juste pour lui faire plaisir. C'est pour pas passer pour le gars qui fait rien, avaché sur son canapé. Mais d'une certaine manière, je lui dis, mais il n'y a pas de petit commencement. Il faut un jour pour commencer une routine. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux toujours dire, ah, mais je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine. Et puis à un moment donné, il m'a interpellé, il m'a quand même un peu confronté. Puis j'avais de la peine à répondre à ses messages, parce que quand je lui répondais que j'ai rien fait, j'avais quand même un peu l'air d'être une grosse loque. Puis après, j'avais plein d'excuses. Ah, c'est une grosse semaine, le rush, machin, mais la semaine prochaine. Puis d'un coup, je lui ai dit, mais Patrick, ça fait trois semaines que tu lui réponds les mêmes messages. À un moment donné, ça serait bien de faire quelque chose. Et des fois, je me dis, mais sur le plan spirituel, ça peut être la même chose. On peut toujours dire, ah, mais la semaine prochaine, j'aurai plus de temps pour prier, j'aurai plus de temps pour ci, j'aurai plus de temps pour. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On ne va pas reconstruire le temps pour un jour. Ils ont mis trois ans. Mais à un moment donné, il y a un changement de mentalité. On se dit, tiens, aujourd'hui, ma vie spirituelle, la prière, la lecture de la Bible, d'autres activités de l'Église peuvent redevenir centrales. Et on se remet en route. Et on recommence. Et puis, un pas après l'autre, le temple était reconstruit. Il a fallu trois ans, mais le temple était reconstruit. Ils se sont remis en route. Le peuple s'est remis en route. Parce que le prophète Agile les interpellait. Et moi, le but de ce matin, c'est de vous interpeller, de ne pas mettre la barre trop haute, parce qu'après on arrête, mais de dire quels sont les objectifs, qu'est-ce que je peux mettre en place de manière simple, mais des changements d'attitude qui font que ma vie spirituelle, elle redevient au centre de ma vie. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce texte qui nous interpelle, qui nous encourage aussi, parce que tu es avec nous, il est question de cette gloire. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit la centralité de la gloire, l'importance de la gloire. Et Seigneur, dans nos propres vies aussi, nous sommes ton temple, et tu nous remplis de cette gloire de ta présence, Seigneur, de cette gloire qui un jour sera révélée. Seigneur, aide-nous de notre vie de mettre les bonnes priorités. Seigneur, on peut tellement vite être centré sur nous, sur notre confort, notre propre épanouissement, et on te met de côté, sans le vouloir. Et Seigneur, donne-nous de revenir à toi, comme ce texte de Jean 15, de demeurer en toi, de ne pas juste venir, de repartir, mais de rester, d'être greffé à toi, Jésus. Que ce qui est important pour toi devienne important pour nous, ce qui est secondaire pour toi devienne secondaire pour nous, Seigneur, dans notre emploi du temps, dans nos ambitions professionnelles, personnelles, familiales ou autres, Seigneur. Seigneur, que nous puissions vivre sous ton regard, et comme tu le rappelles dans ce texte de Romains 12 aussi, que nous puissions nous offrir à toi, Seigneur, offrir nos vies, Seigneur, que soyons transformés dans ce renouvellement de l'intelligence, Seigneur, de pouvoir discerner ce qui est saint, juste et bon. Seigneur, merci parce que tu es en nous, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et c'est vrai, Seigneur, ce n'est pas notre passé qui définit notre futur, notre avenir. Tu dis dans ta parole que tu fais toutes choses nouvelles. Et c'est vrai, Seigneur, même si on s'est mis en pause des mois, des années, des dizaines d'années, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rebâtir avec toi, de revenir à l'essentiel, Jésus. Merci pour cette espérance qui est en nous, c'est ta présence en nous, Seigneur. Amen.